Une vie, une œuvre, Pierre Desproges, 1939 Pantin, 1988 Paris. Son père étant instituteur dans ce qu'on appelait les colonies, c'est avec sa sœur, son frère et sa mère que Pierre Desproges passe son enfance à Paris. Adolescent rétif aux études, il rejoint son père au Laos, puis en Côte d'Ivoire, où un an d'internat lui est une épreuve. Un point fixe cependant, les étés en Limousin, chez les parents de son père. À 20 ans, le service militaire lui vaut 2 ans, en Algérie. Ensuite, c'est l'errance, entre assurance vie, ou vente de poutres de polystyrène, avant que journaliste pour l'Aurore ou Paris Turf, il ne s'engage dans la voie d'un humour singulier qui le conduit du petit rapporteur avec Jacques Martin à France Inter et à l'écriture de sketchs corrosifs. Sa femme, Hélène Desproges, accompagne sa carrière en complicité absolue. Romain Masson signe, avec Anne Pérez, Une vie, une œuvre, Pierre Desproges.
Et cet été, j'emporte, pour lire sur la plage, j'emporte l'annuaire de la Haute-Vienne et l'intégrale des œuvres de Lacan. En fait, je cherche plus un délassement qu'une recherche culturelle ou qu'une satisfaction artistique dans la lecture. L'annuaire de la Haute-Vienne, je parle de l'édition 82, je parle pas de l'édition 81 qui est nulle et 83, je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Je pense que ce livre, plus Lacan, ce sont deux formes de littérature assez semblables dans la mesure où les mots, dans l'un comme dans l'autre, s'enchaînent les uns aux autres sans aucune logique ni sans raison apparente. Et le sommeil vient vite. Et contrairement aux autres barbituriques, il n'y a pratiquement pas d'accoutumance.
J'aime bien entendre rire les enfants, par exemple. Les rires d'enfants, c'est comme ça, complètement bouleversé. Le glou-glou gras d'un cassoulet qui mijote, c'est pas de rire non plus.
Je suis éclectique. Hein.
Brave marin, reviens de guerre, tout doux.
Mais il sait pas conduire, il n'arrive pas à embrayer, débrayer, accélérer, freiner.
Ah si, il sait conduire, mais il met les voitures dans le poteau. Le seul poteau qu'il y a dans la maison, il le met dedans.
Brave marin, reviens de guerre, tout doux.
Est-ce que quand il était petit, il avait un surnom?
Ah oui. Comme il s'appelle Pierre,
Cafteuse.
Son père l'avait dénommé Pillou.
Cafteuse.
Et puis, arrivé à Condorcet en 6e, il m'a fait savoir un soir, et en me priant de ne pas insister, de bien vouloir ne plus aller le chercher à la sortie du lycée en l'appelant par ce surnom. Alors, il est devenu Pierre, éternellement Pierre maintenant.
Je peux toujours dire 3-4-2, ça ne m'évoque rien. Moi. Mais fais-le quand même.
Pierre Desproges, Je ne suis pas n'importe qui. Un documentaire de Romain Masson.
Ma maman me faisait porter des pantalons de golf. Rendez-vous compte, cher ami. Quand j'étais petit, j'étais bien en Tintin. J'avais des pantalons de golf et des chaussettes écossaises à l'heure où les premiers parvenus se vêtaient de porter des blue jeans. Ça, j'en ai beaucoup souffert. Maman, je ne te pardonnerai jamais.
She'll be coming down the mountain, she'll be coming down the mountain, she'll be coming down the mountain when she comes. Sing ya, ya, yibi, 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 ya.
C'est un petit bonhomme qui allait à son cousin Malon.
Dis donc, Périne, tu sais qui c'est, Jésus?
Non.
Qui c'est?
C'est Dieu.
C'est Dieu? Ben où il est? Pourquoi?
Parce qu'il est mort.
Il est mort? Et de quoi il est mort?
Parce que...
T'es triste alors? Tu vas pas pleurer quand même? Hein?
Ouais, mais c'est mon ami.
Jésus, c'est ton ami? Tu le connais?
Oui.
Mais s'il est mort, tu l'as jamais vu?
Mais oui.
Tu le connais quand même?
Oui, je l'ai vu dans mon rêve.
Tu as rêvé de Jésus?
Mais tous les jours, je rêvais.
Et qu'est-ce que tu vois dans ton rêve? Qu'est-ce
que je voyais que j'étais allé au ciel et qu'on ne pouvait jamais être mort.
Bonsoir. Merci d'être venu. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous ne le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que j'ai pas envie de rire et j'ai pas envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je m'emmerde profondément. Et puis je me sens un petit peu gêné d'être ici, debout comme un con, devant vous qui êtes là, assis comme des... Ayant reçu une éducation bourgeoise discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi, devant un parterre de zozos plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu. Et puis pour rien arranger, j'ai horreur qu'on m'applaudisse. Je vous dis tout de suite. Allez, je m'applaudis.
Il faisait un comique qui nous faisait rire, mais dont on n'avait pas honte de rire. Parce que quelquefois, actuellement, je vois, moi, des humoristes qui me font rire malgré tout. Mais un rire dont je ne suis pas très fier. C'était...
Jean-Louis Fournier.
Je sais pas, on avait l'impression qu'on pouvait devenir intelligent. Moi, je me souviens, pour avoir fait la captation de ces spectacles, notamment, je crois que c'était au Théâtre Grévin, le premier. Et je me souviens encore de tous ces gens qui riaient avec lui, c'était extraordinaire. C'était vraiment... ça m'a fait penser à une phrase de Wolinski que j'aime beaucoup, c'est qui avait dit « Le rire est le plus court chemin d'un homme à un autre ». Et je trouvais que vraiment, il avait tissé quelque chose. Et c'était pas un rire facile, c'était un rire... quelquefois caustique. C'était un moraliste un peu, Pierre, aussi, finalement.
Ce qui m'a frappé, moi-même, étant enfant, c'est le début de haine d'autrui que j'avais déjà. Je n'aimais déjà pas le contact humain. Je préférais les vaches, les chiens, les crapauds aux êtres humains tout petits.
Madame Desproges, bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous demander à quoi ressemblait Pierre tout petit.
Un archange avec d'admirables cheveux blonds bouclés.
Maman, t'en fais trop, là.
30 millions d'amis, une première.
Cette poule est la mère de ses chiens. Comment... En fait, c'est la mère adoptive, c'est elle qui les a couvés, qui les a élevés.
Vous avez vu donc ces chiens très petits,
hein? Je les ai eus tout petits. Ils ont été abandonnés par la mère, qui était une épagnole, et qui est partie d'ailleurs avec un chanteur épagnol, et qui a laissé tomber ses quatre petits. Et c'est cette poule, cette adorable petite bête, qui les a recueillis sous son aile. Ce sont des chiens complètement empoulés, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne mangent que comme les poules.
La jeunesse, pour moi, ça représente des boutons sur la gueule, un malaise, c'est une idée malaise. De malaise. Moi, j'ai été un adolescent boutonneux, ouais. Boursouflé d'acné et d'amour raté. C'est une période triste où j'étais pas décisionnaire de ce que je faisais, alors je suis très individualiste, très indépendant, je dépendais de ma famille, de mes maîtres, de... Donc c'est pas une période... Bon, l'enfance, oui, je m'en suis emmerdé.
Ses parents étaient en Afrique, au lycée d'Abidjan, ils étaient enseignants, et son père est parti pour l'Indochine, à un moment, ses parents se sont séparés, et lui a rejoint son père en Indochine. Et là, il s'est ennuyé. Il n'a pas eu d'adolescence drôle. Et comme il était déjà assez torturé, mais il savait pas pourquoi. Vous savez, cette espèce d'adolescence, quand on a 14-15 ans, on a un peu mal dans ses pompes, il n'arrivait pas à l'analyser et il n'a pas eu cette enfance et cette jeunesse avec des fous rires et des bêtises, quoi. Il était très introverti, très tourné vers lui-même et donc, trouver un copain comme ça, quel bonheur.
Encore une fois, croyez bien que je regrette de devoir en arriver à cette extrémité, mais je ne vous aime pas. Je voudrais bien vous aimer, mais je ne peux pas. Je suis trop différent, enfin. Hein? Oui. C'est vrai, Dieu a divisé l'humanité en deux grandes catégories, hein? Les juifs et les antisémites. Et moi, je suis limousin, alors.
Bon, je sais aussi que Dieu a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bon, d'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Et puis je préfère moi-même, j'y peux rien.
Je me suis aperçu au moment du bac que j'avais envie de rien faire du tout. Enfin, non pas que j'étais feignant, je pense pas être feignant, mais je préférais mourir que de faire des choses qui me plaisaient pas, et tout ce qu'on proposait ne me plaisait pas.
Il était comme un... Vous savez, les chiens qu'on enferme la nuit et qu'on fait sortir le matin. Il était comme un chien fou le matin. Il fallait qu'il aille respirer dehors. Il fallait qu'il aille... C'est presque manger de l'herbe. Et moi, quelquefois, je sortais avec lui. On ne se parlait pas, mais c'est vrai que on n'avait pas besoin de se parler. Parce que je sentais tellement ce qu'il ressentait. J'avais l'impression de ressentir les mêmes choses, les mêmes indignations devant la bêtise, devant la vulgarité, devant la... La bêtise du monde. Il était, puis il savait être en même temps excessivement généreux et en même temps. C'est pour ça, il y a une chose que je n'ai jamais supportée, moi. C'est les gens qui m'ont dit, mais t'étais ami avec des proches, mais des proches étaient un type très méchant. Des proches n'étaient pas du tout un type méchant. Des proches étaient un faux méchant.
Vous savez ce que vous êtes tous, là, hein? Je vais vous dire, moi. Vous êtes des voyeurs. Et des voyeurs qui payent pour voir un exhibitionniste, ben, je vous le dis comme je le pense, c'est petit, hein. Ah oui.
Quand nous sommes rencontrés, il a retrouvé ses 15 ans.
Jacques Catlin, son ami avec lequel il faisait des conneries dans la vie, c'est là où ils sont allés très loin, ces deux-là.
C'est celui avec qui mon père, tous les deux manquaient du gène de l'adulte.
Et les bêtises que nous faisions, quand je dis bêtises, mais c'était enfantin, c'était des trucs de 15 ans. De 15 ans, avec déjà ce comportement de Pierre à la recherche d'autre chose que la bêtise elle-même. Il voudrait voir jusqu'où il pouvait aller, quelle était la répercussion de ce que nous faisions, comment. Et petit à petit, les choses se mettaient en place dans son esprit pour le futur. Parce qu'il y. Mais plusieurs fois, il a quand même fallu que je le freine un peu, parce que ça allait loin. Dans le ça allait loin, parce que ça l'intéressait. L'être humain l'intéressait aussi bien. Dans ce que l'homme fait de bien et de formidable, et dans ce qu'il fait de catastrophique. Donc ces choses-là se mettaient petit à petit en place à travers ces quelques années qui ont été des années d'un peu de folie, quoi. C'était en 1964. Nous avions une petite bande de copains et de copines, et parmi ces personnes, il y avait une fille qui s'appelait Françoise Desproges. Je dois te faire rencontrer un type qui est mon cousin Germain, qui est encore plus fou que toi. Et alors, un après-midi, nous sommes allés rue Godot de Mauroy, c'est là où il habitait, et nous avons frappé. Françoise m'a dit, voilà, je te présente Pierre, mon cousin. Et il avait à la main, comment ça s'appelle, ces trucs pour frotter le parquet, là, en métal, là, qu'on met au pied pour gratter les parquets. Bon. Et il m'a dit, tiens, prends-en une, parce que mes parents rentre demain, prends ça, on va gratter le parquet tous les deux pour enlever le pipi du chien. Et c'est comme ça que pendant toute une après-midi, au pied j'avais un grattoir en métal, lui en avait un autre, et on a commencé à gratter, et de là est née une amitié indestructible.
Aujourd'hui vous avez envie de carottes, mais vous n'avez pas de cuisinière, vous n'avez pas de casserole, vous n'avez pas d'eau. Comment faire cuire ces carottes? Eh bien c'est simple. Pour 6 personnes, vous comptez 9 carottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les carottes sont 9. À ce moment-là, vous ôtez une carotte. Les carottes sont cuites. Les carottes sont que... C'est-à-dire qu'il y en avait, je disais, il y en avait 9, j'enlève une. Alors, ça fait... Il n'y en a plus que 8. C'est-à-dire, on dit que les carottes sont que 8. Si on dit les carottes sont 1, 2, si on enlève 2, on dit les carottes sont 7 seulement, c'est pas marrant parce que c'est en cuite.
Comme jusqu'à son service militaire, il n'avait jamais rien fait, il avait une liberté totale, tout à coup il s'est trouvé complètement dépaysé, il s'est retrouvé encadré avec une hiérarchie, etc. Donc c'est là que s'est développé ce comportement très contrasté par rapport, comme vous dites, la hiérarchie, l'ordre, et entre parenthèses, beaucoup près, hein, la connerie. Voilà, la connerie en général.
j'en ai gardé une rancœur totale. J'étais déjà misanthrope avant, mm-hmm. avant de vivre dans une chambrée. Mais quand on a vécu 28 mois au milieu de gens qui font des concours de paix, on a, déjà qu'on n'aime pas ses semblables, on les aime encore moins après. J'ai l'impression que quand les individus se multiplient en nombre, leurs intelligences se divisent inversement proportionnellement.
Et c'est immensément douloureux et terrible pour lui. Il écrit d'ailleurs, il y a des très belles lettres qu'il écrit à sa mère. Il y a une complicité littéraire avec sa mère qui est très belle.
Ivriou.
Déteste d'être enrégimenté, il déteste l'uniforme.
Donc j'ai glandouillé jusqu'à presque l'âge de 30 ans.
Nous n'avions pas beaucoup d'argent et Pierre adorait les marguerites des champs. On partait en voiture et nous allions à la recherche de marguerites des champs le plus proche de Paris. On avait trouvé un champ. Simplement, je gare ma voiture dans un virage sur le National. Il y avait des marguerites, c'était beau, c'était au mois de mai. On passe sous des fils barbelés parce que c'était un champ et on ramasse des brassées de marguerites. Puis Pierre, tout à coup, me dit « Regarde, qu'est-ce qui arrive ?» Il y a deux motards qui arrivaient, qui se gardent derrière la voiture. L'agent lui dit « C'est vous la voiture ?» Ben, je lui dis « Oui. » « Vous savez, il y a double infraction, là. » C'est-à-dire, vous êtes garé à un endroit, dans un virage, c'est interdit. En plus de ça, vous venez de pénétrer dans une propriété privée. Oui, mais c'est pour... Alors Pierre dit, oui, mais c'est... Voilà, c'est pour ramasser des fleurs, parce qu'on a des rendez-vous avec nos petites amies, on n'a pas d'argent, on voudrait leur offrir des fleurs. Le type, le brigadier dit, bon, j'en ai rien à faire de ça. Et Pierre était là, tout à coup, il prend une brassée de marguerites, et il dit, sergent-chef, tenez, prenez ces marguerites, offrez-les à votre femme, elle serait très contente ce soir lorsque vous arriverez avec. Et il a été tellement estomaqué, le moteur, qu'il a tendu les bras. Et Pierre a dit, allez, viens, viens, on se tire.
Tree, they grow high and the leaves, they do grow green. Many a time my true love I've seen. Many an hour I've watched him all alone. He's young, but he's daily growing.
J'ai aucune ambition. Je suis trop conscient de la vanité de l'existence pour avoir un plan de carrière ou une ambition. Depuis que j'ai l'âge de penser au vrai but de la naissance de l'homme, c'est la seule raison d'être sur Terre, c'est de mourir. Donc quand on est bien conscient de ça, pour oublier peut-être que je vais mourir, mais j'ai pas de plan.
Father, dear father, you've done me great wrong. You've married me to a boy who is too young. I'm twice 12 and he's but 14. He's young but he's daily growing.
68, il passe, mais 68, il n'en a rien à foutre, c'est pas son problème.
Moi, j'avais donné la démission de ma société et Pierre n'avait pas de boulot. Et nous avions tous les deux trouvé un boulot au salon du bricolage. Pierre avait un stand où il vendait de la colle qui colle même l'eau. La colle qui colle l'eau. Il avait un discours, et là, c'était les gens, ils étaient babas. Et moi, en face, j'avais le stand où je vendais des clous, et moi, j'avais un gros clou, je disais, ça, c'est le clou pour en face, parce que si je prenais le clou, je mettais la tête contre le mur, et je disais, voyez, en tapant là, ça va pas. Ce clou est fait pour aller sur le mur d'en face. On a traversé mai 68 comme ça, parce qu'il voulait se démarquer, il voulait pas être inclus là-dedans. Il n'a pas analysé ce mouvement parce qu'il était en pleine période de gestation, mais de recherche sur lui-même. L'amitié, c'était aussi d'un peu de le surveiller, mais de loin, parce que je trouvais que il fumait des... Comment c'est des boyardes maïs les plus fortes du monde. Il buvait un peu tout, il prenait des amphétamines, il dormait pas, il était pas bien dans sa peau. Et de le sortir et d'aller faire une ou deux bêtises, ça créait une sorte de récréation.
Il avait une maniaquerie bizarre, parce qu'il avait une façon de vivre quand même un peu folklore, étant donné qu'il... Il était pas, il n'avait pas une grande garde-robe. Par exemple, il faisait sécher ses slips dans le four. Je m'étais longtemps étonnée en me disant pourquoi ce mec a des slips avec des caoutchoucs qui ne tiennent pas.
Et ce ne sont là que les moindres de mes tares. Il y a beaucoup plus grave. Je suis névrosé et psychotique. Ce sont deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent, pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Oui.
Mais savez-vous seulement quelle différence il y a entre un névrosé et un psychotique? Hein? Ben, si vous voulez, on peut dire que... Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5, hein, et qui en est pleinement satisfait. Alors qu'un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4. Et ça le rend malade.
Pierre vivait de petits travaux divers, genre revendre des poutres qui se cassaient la gueule sur les tables, ou vendre des assurances-vie en disant aux gens « on vient voir si vous y avez droit ». Je crois qu'il en a vendu une.
Francis Schulz, c'est l'ami de la période de l'aurore.
Mais comme il écrivait des tas de trucs, des paroles de chansons, il écrivait des petits poèmes, il écrivait des... C'est sa copine Annette Kahn qui l'a fait rentrer parce que Annette connaissait tout ça. Elle est allée voir un jour le chef de service des informations. Elle lui a dit « j'ai un ami qui vienne ». Donc Pierre est rentré à l'aurore. Il était hors norme, Pierre. Il venait avec sa guitare, il venait avec ses chemises à fleurs. Il partait avant l'heure, il arrivait avant l'heure. Enfin, il n'était pas dans le moule, quoi. C'est un personnage extrêmement séduisant, Pierre. Comment vouliez-vous qu'on lui résiste? Je cherchais un appartement. Puis il m'a dit, tu sais, moi j'habite un appartement rue Godot. Il y a une pièce qui est inoccupée, tu veux venir? J'ai dit oui, mais combien? Il me dit rien, tu rempliras le frigo. J'ai dit d'accord. Et je suis allé habiter avec lui, rue Godot de Montroy, au 37.
Francis Schulz, c'est le copain musicien, jazz au flûte. Je suis sûre qu'il ne vous l'a pas dit. C'est le colocataire de mon père pendant un certain temps. Un gros tendre, un gros nounours bien tendre.
Au début, c'était de faire ce qu'on appelait les chiens écrasés. Moi, j'étais au service des informations générales, qu'on appelait les chiens écrasés. Par la suite, c'est devenu service société. Puis maintenant, on appelle ça service investigation parce que c'est plus noble. Mais on faisait des chiens écrasés, nous. Alors, le premier truc qu'il a dû faire, je m'en souviens plus, je pense pas qu'il s'en soit tiré très honorablement. Il écrivait tellement de conneries dans ses papiers. On lui disait de les éviter que... Moreau, qui était son chef de service, lui a dit un jour, « Mais écoute, Pierre, c'est un peu dommage que je sois obligé de sabrer des trucs dans tes papiers, là. On va essayer de créer une rubrique où tu pourrais détourner les faits, les infos. » Ça a été le succès immédiat à l'intérieur de notre service. Parce que la direction de l'Aurore, les autres rédacteurs en chef, ont très vite pris ombrage de ce Ludion qui... c'était un abcès sur la peau de l'Aurore, ça, si vous voulez. C'était pas du tout l'image que voulait donner de l'Aurore d'elle-même. Jusqu'au jour où François Sagan a écrit à l'Aurore en disant « Je ne lis généralement pas l'Aurore, mais la seule chose que je lis à l'Aurore qui me fait énormément rire, ce sont les brèves de Pierre Desproges. »
J'aime bien le langage. J'aime bien le verbe. C'est un outil, quand on sait un peu le manier, c'est un outil formidable. C'est un outil pour tuer quelqu'un, un mot bien, qui vient bien. Mm-hmm. Sans salir les mains, on peut tuer, ou pire, humilier.
Oui.
Par exemple, une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables.
Ouais.
Et s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse. S'il n'y avait pas la science... Combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien de plus en plus impuissant, ou d'un fossile... Lui, il est encore plus impuissant, élu que pas élu. Ou sur la décision d'un fossile ukrainien complètement gâteux, est-ce que c'est pas incroyable de penser que l'homme... peut faire sauter sa planète en une seconde, en moins d'une seconde, il peut faire sauter sa planète 40 fois, sans bouger les oreilles. Voyez-vous, toi je te fais pipi sur la tête si tu continues à m'emmerder. Les Mongoliens, c'est en matinée demain. Pour en revenir à la science, voyez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est Fucius. Eh bien...
C'est un type qui a un don pour l'écriture, d'une part, et qui trouve en plus des formules, des pour dire des choses que d'autres diraient banalement, lui, il les dit de façon drôle, incisive, percutante, souvent provocatrice. Non, il a toujours eu... Et moi, quand je l'ai connu, il écrivait des paroles de chansons, il écrivait des petits poèmes, il m'écrivait des lettres aussi, qui étaient de véritables... parfois des poèmes, et parfois des pamphlets. Enfin, ça... Et c'était toujours très ourlé, très écrit. Il aimait Marcel Aimé, il aimait Vialat, il aimait les gens qui soignaient beaucoup leur façon d'écrire, qui attachaient beaucoup d'importance à la forme, pas uniquement au fond, mais beaucoup à la forme. Ses écrits sont raturés, il se relisait, il passait beaucoup de temps à écrire, etc. Il était très exigeant envers lui-même, envers les autres aussi.
J'ai lu le procès quand j'avais, je sais pas, 15 ou 16 ans, et j'ai été totalement bouleversé. Comme Vialat, d'ailleurs, qui a été le premier traducteur de Kafka. Je peux vous raconter ma vie, deux secondes?
Deux secondes, oui.
Ça se fait dans cette émission, d'habitude, ça se fait pas. Ils osent pas, les autres. je me rappelle, j'étais militaire, j'allais partir pour l'Algérie, et j'étais au bord de mourir, je n'avais vraiment... Mais je plaisante à peine, j'étais très très malheureux pendant mon service militaire. Je m'enfermais dans les toilettes, c'était le seul endroit que je trouvais propre, parce qu'il n'y avait pas d'être humain. Et donc, dans cette guérite où j'étais forcé d'être, avec un fusil sur l'épaule, dans le but d'aller tuer des gens un jour, j'ai vu traîner par terre le spectacle du monde. Vraiment, je m'attendais à tout sauf à trouver Vialat là-dedans. Enfin, je ne savais pas ce que c'était Vialat. Et j'ai lu une phrase qui était « L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau ».
Est-ce que Desproges est encore vivant?
Il est presque vivant.
Bon.
Jacques Martin.
J'ai découvert Desproges dans un journal, que je ne citerai pas, Laurent, il faisait les chiens écrasés, puis la façon dont il rédigeait m'a fait rire. Alors j'ai été le débauché à ce journal, vaillamment engagé, et il est venu avec nous se joindre à l'équipe du petit rapporteur. C'est pas un comique d'attaque, c'est un comique qui laisse parler, toc, et qui se place. Il est, comment dire, il est bon... Bon compagnon muet.
Il serait la famille de qui? De Harry Langdon ou ces personnages improbables qui a eu dans l'histoire du cinéma comique?
Dans le comique, il y en a toujours un qui a l'air de rien. Fernand Reno, par exemple, qui avait l'air de rien, qui jouait des personnages misérables et qui gagne tout le temps à la fin. C'est pas un comique d'attaque. Bedeau, c'est un comique qui attaque. Desproges, il a toujours une tête, on dirait qu'il vient de lui tomber tous les malheurs dessus. Deux grands yeux à ne rien faire. Une mine de ne toucher à rien, mais redoutable.
On a regretté ce moment-là, parce que on s'est dit qu'on allait le perdre, et que lui, peut-être, allait se perdre dans le showbiz. Il ne s'est pas perdu. Et puis, il y avait Hélène derrière qui...
Hélène a été le pivot de Pierre, dans tous les domaines. Pierre, grâce à Hélène, il a arrêté tout ce qui était excentrique, superficiel... Et Hélène a tout de suite vu, c'est une Vendéenne et une fille volontaire, et Hélène a tout de suite senti en Pierre cette espèce de ce potentiel de l'écriture, et c'est elle qui lui a donné confiance en lui. C'est elle. C'est la seule personne à qui il a montré ses textes, Hélène, parce qu'il travaillait comme un fou, Pierre. C'était un grand, grand bosseur, il travaillait du matin jusqu'à midi. Et après-midi, c'était les copains, c'était nous, c'était les vacances. Mais jusqu'à midi, c'était son secret. Et ensuite, il montrait ça à Hélène. Hélène, qui est quand même très sensée, l'a beaucoup aiguillé en disant « ça, non, ça, c'est pas très bon, ça, c'est meilleur ». Et il l'écoutait. C'est la seule personne qui l'a écouté.
Comme c'est un angoissé conséquent, je pense qu'il était quand même plus encombré.
Hélène Desproges.
Par la panique de ne pas créer. Quand il disait, par exemple, « Mais si j'ai plus d'idées, on va vivre comment? Les filles vont vivre comment ?» Je lui disais « T'inquiète pas, on a de quoi vivre. » Je lui montrais les comptes quand ils étaient pleins. Comme de toute façon, il n'avait pas de carte bleue, il n'avait pas de chéquier. Et que je lui donnais du liquide comme un gosse. Hein?
Alors voici donc ce qui me fait bander. Si, si. C'est gentil de prendre des notes, j'aurais pas l'occasion de répéter. Alors, t'écoutes le gamin là, oui? C'est bientôt, c'est pour toi. Alors, ce qui me fait bander,
Premièrement, ma femme. Tu la connais? Oui, je me suis moi aussi longtemps demandé ce qui m'excitait plus particulièrement chez la mère de mes enfants. Peut-être son appartenance au sexe féminin. Et le nombre élevé de la plupart de ces deux saints. Ne sont-ils pas tout à fait étrangers à la curieuse fascination que le contact de son corps exerce couramment sur mes sens, le jour, la nuit, et parfois même pendant la commémoration de la mort de Jean Moulin sur FR3 Dijon.
Hélène lui a donné un endroit sécurisant, l'a certainement poussé aussi. Et puis, ce qui le rend heureux, en fait, c'est de passer son temps avec sa famille, quoi. C'est un type assez simple, un peu bourgeois. Il est content avec sa femme et ses gosses et ses chiennes.
Il a un côté français, franchouillard, mais...
Yves Rioux. Ben, il est bien, lui aussi, dans le genre tendresse, hein, Rioux. C'est un poète, ça fait partie des vrais fidèles. C'est un peu mes pères adoptifs, tous ces gens-là. Je leur annonce, mais ils font partie, ouais.
Dans le meilleur du terme, c'est-à-dire c'est... Déjà physiquement, il a un côté assez trapu, bien planté dans le sol, et la culture du vin, le côté colérique du garçon de café. Il a plusieurs archétypes comme ça en lui, et c'est pour ça aussi que les gens le ressentaient comme un déleur, comme quelqu'un du paysage, quoi.
Merci à toi, mon chien, meilleur ami de l'homme. Merci à toi, mon chien, tu es mon frère en somme. Merci à toi, mon chien, toi qui fais fuir les ploucs.
Il adore les animaux, en fait. Je sais que quand il a rencontré ma mère, il avait une chienne qui s'appelait Julie, qui était un espèce de basset avec une tête de berger allemand, et il lui a donné une race, le pégurier des lagunes d'Abyssinie. Et c'était apparemment un chien extrêmement intelligent, qui apparemment faisait les ongles. Quelqu'un vous en a parlé, Francis ou...
Jacques.
C'est le cri de Mirza.
Oh, mon chien.
Quand il faisait surtout les flagrants délires, on n'avait pas intérêt à trop être dans ses pattes, hein, parce qu'il était dans un état terrible. Il fallait qu'il fasse, je sais pas moi, peut-être 4 ou 5 feuillets tous les jours. C'était et que ce soit drôle. Tout ça, c'était une belle mécanique. Hein, c'était vraiment un orfèvre. Il savait vraiment bien. Lui, il tirait le maximum des mots.
On ne voulait surtout pas louper le tribunal des flagrants délires. C'était un rendez-vous incontournable. Pierre a institué des rendez-vous incontournables avec la France. Son côté très politique, dans le fond. Tout le monde attendait son réquisitoire. On l'attendait par son verbe, par sa cruauté, par comment il allait tirer le portrait de la personne qui était en face. D'ailleurs, des fois, il tirait absolument pas le portrait. Comme quand il s'est retrouvé face à Le Pen, il a parlé de tout autre chose que de l'individu. Donc c'était aussi sa façon d'afficher son mépris. Il y a eu le tribunal des flagrants délires, et puis il y a eu Monsieur Cyclopède. Alors Cyclopède, il a beaucoup divisé. Hein. Il y avait les pour, il y avait ceux qui comprenaient rien. Et c'est drôle parce que c'est vrai que c'est complètement absurde, c'est absurde. Et c'est inimaginable aujourd'hui que il y ait à 20h40 ou 20h30... comme ça, une envolée d'absurde, une pastille de délire, où il allait loin.
Monsieur le Président, chère maîtresse, monsieur le représentant de la petite noblesse d'épée, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Qu'est-ce qui est le plus facile, défendre ce que l'on aime ou...
Non, attaquer ce qu'on n'aime pas. Alors, beaucoup plus facile, enfin pour moi, d'attaquer ce que j'aime pas que de défendre ce que j'aime.
D'abord, vous étiez le procureur.
D'abord, je trouve impudique de défendre ce qu'on aime, alors que je trouve pas du tout que ça le soit d'attaquer ce qu'on n'aime pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je trouve que c'est se dévoiler que de dire, je ne sais pas, au conditionnel, je vous dis. Je pourrais être ému, par exemple, par les petits enfants noirs qui meurent de faim. Et j'en parle pas parce que je trouve que ça regarde pas les gens.
Des limites, si, il en avait parce que il savait quand il allait, il sentait quand il allait trop loin. Mais des fois, il avait tellement envie d'aller loin qu'il se pouvait pas s'empêcher d'aller loin. Donc, il pouvait provoquer, il pouvait se moquer, il pouvait faire de la peine, il pouvait. Mais il y a un truc fondamental que je ne perçois pas forcément chez d'autres humoristes. C'est que, au fond de lui, c'était un homme bon. C'était pas de la méchanceté. C'était cette envie de taquiner. C'était toujours, la vérité, elle est plus loin que, etc. C'est toujours aller au noyau, quoi. À la vérité, elle est là. Elle est moche, elle est belle, mais elle est là. On est peu de choses, hein. Toujours, cette distance. Qui fait que, et toujours aussi, ce qu'il était, mais c'est sa comédie à lui, se disant misanthrope, mais qu'est-ce qu'il aimait les gens?
Il aimait bien, finalement, étrangement, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est vrai que les gens qui n'avaient pas de bol, les gens qui étaient comme ça, ça le touchait beaucoup. Il était provocateur, il était chiant, il était redoutable par moments, à tel point que j'ai quelquefois failli le quitter.
Jean-Louis Fournier, ça a une part très importante dans la conception graphique, musicale et d'image. Et ces deux larrons se sont très bien entendus et ils étaient tellement heureux de diviser la France avec Cyclopède. Et
je me souviens quelquefois sur Cyclopède, il était mais redoutable. Je me souviens un jour, par exemple, c'était un sketch où ça se passait dans un bistrot et on avait un figurant qui était assis et à qui j'avais fait mettre une boisson, j'avais fait mettre un sirop de menthe. Il m'a fait tout un numéro parce que c'était un sirop de menthe. Il m'a dit, j'aimerais mieux que ce soit du sirop d'orange ou du cassis ou tout ça. Alors, c'était des petites choses comme ça. Bon, bien évidemment, j'ai compris que c'était sa trouille de ne pas être drôle et tout ça qui conjurait en accusant un accessoire. Mais par moments, il était... Et puis, il savait être de mauvaise foi. Et je me souviens des discussions avec ma femme. Une fois, il s'est engueulé avec ma femme. Ma femme l'a insulté, lui il l'a pas insulté, il était bien élevé. Le lendemain, quand on s'est levé, il y avait un gigantesque bouquet de fleurs au milieu de la table qu'il avait acheté pour s'excuser auprès de mon épouse. Non, il était vraiment très touchant. Et c'était une bonne collaboration parce que lui étant écrivain baroque et moi étant plutôt minimaliste, le mariage des deux était pas mal. Il avait tendance à surcharger Pierre parfois. Peut-être par trouille, peut-être de... À la limite, il se serait mis un nez rouge pour faire Cyclopède ou ça. Et chaque fois, je lui avais dit non, il faut que tu restes digne, au contraire. Ça fera ressortir le côté absurde de ce que tu racontes, si t'as l'air digne. Si t'as une tête de clown, on s'étonnera pas que tu dises des bêtises. T'as...
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et si je poussais une longue plainte déchirante, pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur? Hein? Encore faudrait-il que je croie en un combat. Ah, bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais je n'ai pas ce courage. Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé. De toute façon, je peux pas être engagé, à part la droite. Il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Et puis d'abord, quelle gauche, hein? La gauche gluante d'humanisme sirupeux, des eunuques à la rose? Quelle droite? La droite du fumier où la rose est éclose? Non, mais enfin, quelle gauche? Je sais pas, moi, vous prêteriez votre peigne à marcher, vous? Bon, notez que Marchais, je ne l'accable pas, c'est un homme qui s'est fait tout seul, malgré une inculture et une pauvreté d'esprit qu'on ne rencontre plus guère que chez les animateurs de Radio Libre. Un homme qui a fait une carrière politique remarquable, finalement, hein, en restant persuadé toute sa vie que Marceau, Berthier et Périphérique étaient des maréchaux d'Empire. Ne soyons pas anticommunistes primaires, camarades. Chers amis, pardon.
D'autant qu'il suffit de lire une seule fois Karl Marx pour devenir aussitôt anticommuniste secondaire. Je sais pas si vous avez lu Le Capital, mais c'est emmerdant. Le Capital, finalement, c'est comme l'annuaire. Hein. On tourne trois pages et on décroche. Hein. Mais attention, comprenons-nous bien. Je ne prêterai pas mon peigne à Marchais, certes. Mais je ne donnerai pas non plus mes poux à Le Pen. On serait capable de les torturer, ce con. Vous savez que cet homme-là n'est pas humain. Je suis sûr qu'il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue son œil.
Voilà, alors quand on dit que, bon, Desproges avait mauvais caractère, qu'il partait d'une émission à une autre, du petit rapporteur, il est parti, du tribunal des flagrants délires, il est parti. Je crois que foncièrement, il n'aimait pas avoir un boss au-dessus de lui, un taulier, puis il disait un patron, ça et là. Donc à un moment donné, il se fritait, quoi.
Je n'ai jamais eu envie de faire ça, ce que je fais.
Ouais.
Étant môme, j'écoutais du Francis Blanche et Pierre Dac. Je dis étant môme, j'ai déjà du poil aiguille, je suppose. Et j'étais passionné par ça. Je séchais des cours ou je repoussais des rendez-vous pour pas rater des émissions de Pierre Dac, Francis Blanche, après Martin,
Yann,
etc.
On sait comme ça que Brassens. C'est quand même pour toi quelqu'un qui a, en dehors de l'œuvre, qui sur scène était quelqu'un de très intéressant. On m'a semblé dire ça, je sais pas si
je... Oui, moi, humainement, je trouvais aussi. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle d'humanité. Enfin, si c'est quelqu'un qui est arrivé au sommet dans ce métier, si tant est qu'il y a un sommet. Mm-hmm. Enfin, pour moi, la réussite, c'est d'arriver à ce qu'on veut. Ça se chiffre pas en nombre de fauteuils qu'on remplit au Palais des Congrès. Mais il est arrivé très haut et très bien sans jamais se compromettre.
Dès que quelqu'un était un peu hypocrite, était un peu, comment dire, était un peu louvoyant, il avait une perception de ça. Pourquoi Pierre Desproges, il reste aussi présent? Pourquoi il parle à plusieurs générations? Parce qu'il a une superbe authenticité. Quand il est sur scène, quand je le voyais à côté, complètement en dehors de la scène, ça, c'était pareil, c'était lui-même. En même temps, c'est un homme de nuance. C'est pas un... Par moments, il saute à pieds joints sur quelque chose qu'il faut dénoncer. Alors, il peut y aller au marteau, mais il peut être d'une grande finesse sur l'humain. Quoi.
Est-ce qu'il avait peur, Pierre ? Écoutez, je ne sais pas s'il avait peur, mais il s'est rendu compte que lorsqu'il est devenu un personnage public, qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas totalement dire parce qu'il risquait des retours désagréables. Par exemple, le jour, quand il a composé son sketch, quand il a fait son sketch qui commence par « On m'a dit que des Juifs étaient glissés dans la salle ce soir-là », il a longuement hésité, quand même, avant de le dire. Il a consulté, parce qu'il dit, est-ce que je peux le faire? Tu crois que je peux le... Il avait envie, évidemment. Mais est-ce qu'il disait, est-ce qu'on ne va pas m'accuser? Est-ce que les gens vont prendre ça au premier degré? Et ça a été pris au premier degré par un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui lui ont amèrement reproché. Mais il n'a pas eu peur physiquement. Mais il a eu peur des répercussions que ça pourrait avoir et du fait que ça pourrait être mal compris ou compris de façon simpliste par des gens qui pourraient lui tomber dessus. Si, il n'était pas très rassuré quand même devant les gens qui étaient les gros bras ou les gens un petit peu bas de plafond. La bêtise à front de taureau, ça l'effrayait un petit peu quand même.
Je suis d'accord qu'il va très loin dans la provocation, mais il va tellement loin qu'il n'y a pas d'ambiguïté, justement.
Je pense qu'il avait une indignation foncière, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses qui le révoltaient. Je pense que tout d'un coup, ça se traduisait, on le sentait, ça passait dans les mots. Il mettait le feu aux phrases. Il était indigné. C'était, et quelquefois, il y avait des gens qui me disaient il n'est pas très agréable qu'on comprenne des proches. Je savais qu'il n'était pas sympa avec tout le monde. Et moi, je me souviens, je lui avais dit, écoute, est-ce que toi, quand tu as mal aux dents, tu es sympa avec les gens? Ben non. J'ai dit, quand on a mal quelque part, on n'est pas... Ben Pierre, c'était un écorché vif quand même. Hein. Donc, il fallait savoir qu'il était écorché vif. Et donc, ben oui, les écorchés vifs ne sont pas gentils.
Je ne suis pas bien. J'aime mieux. C'est encore très orgueilleux ce que je vais vous dire, mais je l'ai vérifié. J'ai des preuves. Je préfère être dans la misère que de m'abaisser les choses qui ne me plaisent pas. Bon, le premier exemple que j'ai eu, c'est quand j'étais au petit rapporteur. C'était quand même une chance formidable pour quelqu'un qui n'avait rien fait, d'être placé dans la lumière de quelques 18 ou 20 millions de personnes tous les dimanches, et ça marchait. Ouais. Mais à partir du moment où on a essayé de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, où on m'a coupé au montage des scènes qui faisaient rire les monteurs, vous connaissez le métier qu'on fait, j'ai plus été bien.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir l'amabilité de fermer vos gueules, merci.
C'était quand même un événement énorme, le fait qu'il monte sur scène, parce qu'il n'était jamais monté sur scène. Et est-ce que ça allait marcher? C'était vraiment tout à fait... on était angoissés, lui à un point extrême, nous aussi, par sympathie. Et puis ça a tout de suite été formidable.
À l'époque, peu de journalistes montaient sur scène. Avant, fallait pour monter sur scène, fallait aller d'abord au cabaret, tenir la scène seul, ça paraissait...
Ma vie est un enchantement, quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants, c'est merveilleux ces moments. Je me rappelle que ma cadette me l'avait récité la veille du grand jour pour faire la surprise à sa maman. Je m'étais d'ailleurs permis une réflexion. Oui. Mais là, je lui ai dit, tu vois, ma fille, c'est pas mal ton truc, mais ce serait plus personnel si tu avais fait un texte toi-même. Tu en serais parfaitement capable et ce serait bien plus touchant pour maman, c'est vrai. Alors elle m'avait dit, oui, papa, tu sais, mais je veux bien, mais je suis pas aussi forte que la maîtresse en poésie. En quoi? En poésie, je suis pas aussi forte que la maîtresse.
Nos parents nous emmenaient parfois en tournée de façon à ce que
Perrine Desproges
soit très consciente du travail que ça représentait. On avait le droit d'aller le voir en loge, mais il y avait un moment où il fallait lui foutre la paix parce qu'il avait tout simplement besoin de se concentrer. Donc voilà. Et puis après, j'ai le souvenir d'avoir un peu dormi au spectacle, pour être très honnête, hein, surtout en 84. J'avais 7 ans. C'était un peu long, quoi.
Tiens, c'est vous qui me fait. Ça va-t-il que j'y fais? Ben ça va, qui me fait? Et les gosses que j'y fais? Ça va bien, qui me fait? Sauf l'aîné qui me fait? Allons bon, que j'y fais? Qu'est-ce qu'il a? La rougeole qui me fait?
Il y a eu deux spectacles, Théâtre Grévin, Théâtre Fontaine. Deux merveilles absolues. Où il est sur scène, où il joue pas de comédien, il est lui-même. Il y a aucun accessoire, il y a peu d'effets, l'éclairage est très simple.
Ah ça oui, que j'y fais.
Et pas d'improvisation, tout était écrit.
Et le boulot qui me fait, bon rien de changé, que j'y fais. Et la retraite qui me fait. Dans 2 ans que j'y vais, pas trop tôt qui me fait.
C'était parce que il s'adressait à des gens intelligents. Il avait tendance à penser que le public était intelligent, ce que je trouve capital. Je pense qu'on ne peut rien faire de bien si on méprise les gens. Si on dit les gens pour qui je suis en train de raconter un texte, d'écrire un bouquin, de peindre un tableau, ce sont des nuls, de toute façon. Ils ne connaissent rien à rien, donc je peux leur faire n'importe quoi. Je crois que Desproges, finalement, avait de l'estime pour les gens à qui destinait son spectacle. Et c'est ce qui s'est senti quand on était au Grévin. J'avais vu tous ces gens qui riaient autour de lui, je me suis dit, putain, l'humanité, finalement, elle n'est pas nulle. L'humanité n'est pas si nulle que ça.
Tu lis beaucoup de journaux, tu regardes beaucoup de journaux télévisés.
Oui,
Est-ce que ça
J'ai un besoin, comme j'ai toujours peur de mourir, j'ai un besoin de... Je crois que c'est... Les gens qui ont peur de la mort font toujours référence à l'heure. Ils regardent qu'est-ce qui se passe. Ils se situent tout le temps dans le temps qui passe. Moi, quand je me couche, je me dis, chouette, j'ai tant d'heures à dormir, j'ai plus de temps d'heures. Et les journaux, les bulletins, toutes les heures, les radios, ça me ponctue l'existence. Puis l'autre raison, c'est que professionnellement, j'en ai un petit peu besoin.
Toi, ta propre mort, c'est un sujet qui revient à certaines périodes.
Tout le temps, tous les jours, toutes les demi-heures.
Tout le temps.
Sans arrêt. Oh. Oui, enfin non, je m'arrête pour dormir.
Bon, alors c'était la parenthèse.
Non, mais chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, je me dis c'est dommage qu'il va falloir mourir après ça, tu vois. Je suis quelqu'un qui doute tout le temps, et la seule certitude que j'ai, malheureusement, c'est celle-là. Ouais. Je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas au diable, je ne crois pas à Giscard d'Estaing. Toutes les grandes valeurs me passent au-dessus.
Sur Dieu, il y a des points d'interrogation, hein.
Le fait de trouver que la mort est injuste, c'est déjà une réflexion mystique, forcément.
Mm-hmm. Ouais.
On aimerait bien qu'il y ait une solution. Quand on pense que Dieu est la solution, on doit sûrement mieux vivre cette certitude-là. Mm-hmm. Enfin, je sais pas. Mm-hmm. Moi, je suis un athée mystique.
C'était troublant. C'était troublant, ce qu'il disait. Et puis, il était capable, quelquefois, de faire des silences. Et c'est extraordinaire d'avoir le courage de faire des silences sur scène. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont peur de faut meubler, parce qu'ils ont peur que... Et tout d'un coup, il y a du silence. Ça, c'est la maîtrise sur le public, de tout d'un coup faire du silence.
J'aime pas les chanteurs, les Olives Vertes, Roland Barthes, la joie dans les yeux d'un enfant, ça m'énerve également. Schoenberg, les sportifs, les racistes, les nègres, évidemment. Et les mecs qui ferment le bouton du haut de leur polo.
Vous allez faire comme ça le dandy culturel et jusqu'à quand?
Mine de rien, il m'insulte toutes les 20 secondes.
Mais, pas du
mais
tout,
si vous me trouvez dandy culturel.
Ah, vous avez quelque chose comme ça. Mais c'est sympathique. Mmh. Jusqu'à quand vous pourriez faire ça?
Je sais pas, c'est un peu moi, je veux dire, c'est pas une attitude. Jusqu'à mes premières métastases.
Parce que là, on pense qu'on ne peut pas faire rire longtemps, parce qu'on s'use de soi-même.
On s'use. Moi, j'ai très, très peur de ça. Je suis mort de peur de ne pas être le premier à m'en apercevoir, surtout. C'est ça. Et ça, pas savoir partir, comme dirait l'humilia Sherina, c'est dur.
Ce qui est, comment dire, assez inexplicable, c'est cette obsession de la mort, qui est quand même exceptionnelle chez un humoriste. Et lui, il l'avait, il pressentait qu'il allait mourir jeune. Je pense que c'est tout simple. Il y avait cette idée qu'il partirait vite. Et quand il dit dans un sketch, il dit « dans quelques semaines, j'aurai le cancer », et quelques temps plus tard, il a un cancer. C'est mystérieux, ça. Ces angoisses profondes... De dire, bon, à quoi ça sert de faire tout ça si, bon, on disparaît. Donc, en même temps, ce raisonnement-là lui a fait acquérir cette espèce de liberté, justement, de dire ce que j'ai envie de dire avant de partir. Et vous me faites chier, je dirai ce que j'ai envie de dire.
Je pense que, je suis pas le premier à le dire, la politesse du désespoir, ces choses-là. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens. Bon, d'abord, je pense pas qu'on puisse faire de l'humour. On est du verbe être humoriste, mais sans que ce soit un métier. Je veux dire, j'aime pas non plus qu'on me dise vous qui êtes humoriste. C'est une attitude générale de vie. C'est comme d'être beau ou laid, je pense.
En général, on vous le dit pas. On rit dans la rue quand on vous rencontre.
Oui, on se fout de ma gueule. C'est ce que vous voulez dire. Et pour moi, l'humour, c'est quelque chose que je sens aussi bien chez les autres que quelquefois chez moi, et que je ne vois pas autrement que noir. Je veux dire, parce que c'est vraiment une défense. Et moi, je sais que j'en use. Si on peut appeler ça en user, mais c'est un mode d'expression qui me vient couramment dans les cas carrément sinistres. Je peux vous dire le cas qui a exactement un an de quelqu'un que j'aime énormément, qui est mort d'un cancer. Depuis, j'ai inventé un personnage qui s'appelle le docteur Léon Metastasenberg, et j'ai notamment au flagrant délire, j'ai déconné longuement sur ce thème-là pour l'exorciser.
Inshallah.
voici pour terminer vraiment le résumé du spectacle. Alors, en gros, d'abord, nous pouvons dire que ce spectacle est un cri de haine désespéré où perce néanmoins une certaine tendresse. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je leur signale que tendresse, c'est avec deux S. Au début du spectacle, l'auteur-interprète se demande ce qu'il fout là, vous vous rappelez ? Le public aussi. Et nous noterons au passage qu'une telle communion de pensées entre l'artiste et son public est rarement atteinte au théâtre où, la plupart du temps, le public est le seul à s'emmerder. Par la suite et jusqu'à la fin du spectacle, l'auteur-interprète ne cessera d'afficher un mépris surprenant pour ce merveilleux métier de saltimbanque qui permet à l'homme de laisser éclater enfin l'éblouissante créativité fantasmatique de son égo profond, trop souvent engourdi dans les méandres sournois d'un quotidien démobilisateur dont on ne saurait taire plus longtemps l'infinie détresse, avec deux S également. Après avoir caché difficilement son amour des hommes sous un débordement de sarcasme visant à discréditer successivement la résistance française, la bouillabaisse et les grabataires, l'auteur-interprète, très ému finalement, cache difficilement sa pudeur en montrant sa bite. Dont il narre les coups de boutoir avec une drôlerie féroce, mais aussi un érotisme trouble qui n'est pas sans évoquer Monsieur Louis le Prince Ringuet si ses oreilles étaient des couilles. Enfin, à court d'idées et à bout de souffle, l'auteur-interprète vachement gonflé termine en faisant le résumé de son spectacle, disons. Et puis, quand même, il s'en va. D'un pas mal assuré, en cachant tant bien que mal, sous les dehors glacés d'un cynisme à la mode, la vraie joie qu'il a eue d'avoir été avec vous ce soir.
Pierre Desproges, je ne suis pas n'importe qui. Avec Jacques Catelin, Perrine Desproges, Jean-Louis Fournier, Yves Rioux et Francis Schull. Archivina, Arnaud Planchon. Équipe de réalisation, Olivia Branger, Yann Précy, Claude Nior, Anne-Thérèse. Attachée de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Romain Masson.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à l'écrivaine et traductrice tchèque Milena Jesenská.